Surprise. Voilà, donc nous tournons dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Marc, chapitre 1, et Pascal va afficher le texte que je vais lire dans la version qui est affichée, mais dans quelques instants. Donc, est-ce que tu peux... Voilà. J'ai oublié que ce n'est pas tout de suite. Donc, nous sommes dans la période de carême, ce temps où nous préparons nos cœurs pour la plus grande fête chrétienne, à savoir Pâques, comme James l'a dit. Et je vous invite à regarder de plus près donc la personne, la vie de Jésus-Christ. Je pense que c'est une bonne habitude pour tout disciple d'étudier son maître et regarder ses écrits et regarder la vie de Jésus et même parcourir l'évangile pour préparer Pâques. Donc nous allons rester dans l'évangile de Marc. Et en guise d'introduction, pourquoi l'évangile de Marc, je vous rappelle que chaque évangile, c'est un peu comme un film. Et quand on fait un film ou un documentaire, on a un point de vue. Et chaque évangéliste, chaque écrivain de la vie de Jésus, on peut dire celui qui écrit la biographie, a son point de vue. Et Marc, il prenait le point de vue de Pierre, Simon-Pierre. Donc, et chaque évangile montre l'histoire, l'enseignement, le début et la fin de la vie de Jésus, cette fin dramatique, Jésus-Christ mort et ressuscité. Donc, ces choses sont essentielles. Et pourquoi est-il venu? Pourquoi cet homme est venu sur terre incarné, donc ce Dieu incarné, et c'est pour sauver l'humanité. Il est venu comme un serviteur, dit l'évangile de Marc, qui donne sa vie, qui sert les autres pour sauver l'humanité. Et le message de l'évangile de Marc est résumé dans le chapitre 10, verset 45. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10, 45. L'évangile de Marc, comparé aux autres évangiles, a été écrit en premier. C'est, on peut dire, la source, l'auteur est Jean-Marc, donc Jean, un nom juif, et Marc, un nom grec, qui était un disciple de Pierre. Il est mentionné deux fois ou quelques fois dans le Nouveau Testament. Il était même là dans le jardin de Gethsémané. Et il s'est échappé un peu aux dernières secondes avec plus rien. Donc il n'avait qu'une petite... et il est parti tout nu, voilà. Mais l'évangile de Marc a été rédigé du point de vue de Pierre, un homme fougueux et vif, qui a confessé « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant !» Et quelques secondes après, il a dit « Non, tu ne vas pas mourir, Jésus, non !» Tu n'iras pas à la croix, non. Donc, il était plein de contradictions, Pierre, comme nous tous. Pierre a appris, comme nous aussi, la limite de sa compréhension spirituelle et de sa fidélité comme disciple. Pierre a renié Jésus trois fois. Et combien de fois avons nous renié notre maître par nos paroles, notre manque d'action? Dans l'évangile de Marc, nous découvrons que Jésus-Christ est venu pour servir. C'est le thème, chapitre 1 à 11. Et il est venu aussi pour se sacrifier. Donc, les chapitres 12 à 16 racontent les 8 derniers jours de sa vie. Et parce que Jésus est présenté comme un serviteur très actif et plein de compassion, l'évangile saute sa naissance et sa généalogie. Donc, Pierre, il saute au-dessus de la nativité et tout ça pour aller dans le vif, dans l'action, parce que c'est sa nature. Marc commence au tout début du ministère de Jésus. Maintenant, on retourne sur le texte. Je m'écarte un petit peu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages. Et les anges le servaient. Prions. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'avoir accès à la Bible, l'Ancien et Nouveau Testament, et de pouvoir entendre, lire et même se rassembler librement pour réfléchir ensemble, méditer ta parole. Merci Seigneur pour cette liberté. Et nous prions que par ton Esprit Saint, tu nous aides à comprendre un petit peu mieux ce passage et comment ça pourrait changer nos vies et comment nous pouvons le mettre en œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Donc ce début de l'évangile de Marc rappelle quelques points essentiels. Ces points sont presque évidents. Donc je n'invente rien de nouveau. Jésus-Christ est annoncé par le prophète Jean-Baptiste, vous avez peut-être remarqué cela. Jésus-Christ a été affirmé par son Père lors de son baptême, par Jean, et Jésus a été tenté par Satan dans le désert 40 jours. Donc on a le prophète, le grand prophète Jean, qui annonce sa venue, et on a la voix de Dieu, le Père, qui reconnaît que c'est son fils. Et on a aussi le fait que Jésus est tenté et il sort victorieux. Jésus-Christ, tout d'abord, est annoncé par Jean. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Et Marc commence son message de bonne nouvelle avec une citation du prophète Ésaïe 40, qui sera affichée normalement, si on arrive. Juste les trois premier verset. Donc, ça, c'est l'évangile de Marc. Voilà. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert : Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Nous comprenons très vite qu'il s'agit de Jean-Baptiste qui prépare le peuple d'Israël à recevoir une consolation. Le Christ va pardonner leurs péchés. Jean est le messager, il crie dans le désert. Dans le désert, on peut se demander, mais pourquoi il crie dans le désert? Pourquoi pas dans les synagogues? Pourquoi pas dans les rues de la ville? Ou pourquoi pas sur une montagne pour qu'il soit entendu? Mais il va dans le désert. C'est le lieu où habituellement on est loin des bruits, on est loin de notre vie quotidienne. Je ne sais pas si vous avez jamais fait une sortie loin de même dans le désert, il est possible parmi nous, il y a des voyageurs qui ont fait quand même des voyages au Maghreb ou en Afrique. Ou, moi-même, je suis jamais allé en Afrique, mais il y a des endroits très arides dans le sud des États-Unis, sud-ouest, où j'ai voyagé comme adolescent. Donc, on a fait un camp de plusieurs jours dans un parc national loin, loin de tout. Et la nuit, il n'y avait plus de lumière. La ville était très loin. Il n'y avait que quelques signes des montagnes, quelques arbres et le ciel avec plein d'étoiles. Donc c'était magnifique et on était très loin de tout. Et étant loin de la ville et des bruits et des téléphones et tout ça, on était plus ouvert, plus réceptif à la voix de Dieu et à entendre sa parole et entendre vraiment un message de sa part. Et je crois que c'est pour cela que Jean et d'ailleurs Jésus prenaient le temps à l'écart dans le désert. Et c'est dans ce désert que la Bible indique que c'est un lieu de recherche où on cherche à mieux connaître Dieu et avoir une relation plus intime avec lui. Et Jean prêchait dans le désert la repentance, ce que James a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire un changement radical dans nos pensées, dans notre vie. On peut dire qu'on est sur un certain chemin et on décide que ce n'est pas le bon. Donc on cherche une façon de faire demi-tour. Dans nos routes souvent tracées, c'est difficile parfois de faire demi-tour. Et je crois que dans nos vies aussi, une fois qu'on est lancé, une fois qu'on a certaines habitudes de vivre, c'est difficile de s'arrêter et dire « je me suis trompé » et faire demi-tour. Mais il vaut mieux le faire plus tôt que plus tard, parce que le plus qu'on s'éloigne, le plus qu'on a à faire le route de retour. Donc il faut être honnête. Il faut savoir que Jean était une personne radicale. Il vivait dans le désert. Il s'habillait bizarrement. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Imagine combien de fois il a été piqué pour attraper le miel et peut-être combien de fois il a mal digéré ses sauterelles. C'est quelque chose difficile à imaginer qu'il était tellement populaire, mais c'était un personnage très populaire. Et par ses paroles et sa manière de vivre, il a attiré l'attention des gens. Il voudrait frayer un nouveau chemin de Dieu dans les cœurs et dans les vies de ses contemporains pour préparer l'arrivée de Jésus-Christ. Et notre texte biblique nous dit que Jean était un prophète plutôt populaire. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient après lui ou vers lui. Reconnaissant publiquement leur péché, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Donc c'est clair que ce n'était pas juste un prédicateur un peu bizarre qui avait quelques répondants. Non, c'était un grand prophète. Et Jésus dit même que c'est le plus grand des prophètes de l'ancien temps, Jean-Baptiste. Et dans le symbolisme de l'Ancien Testament, le fait d'être trempé dans l'eau ou d'être aspergé par l'eau, c'est très important. L'eau en elle-même est très importante dans la Bible. Et dans ce contexte, il symbolise la purification. Et dans l'Ancien Testament, on a des prêtres qui doivent se laver entièrement leur corps et leurs vêtements dans l'eau pure. On a aussi des textes qui parlent de purifier des objets et même les maisons. Quand les maisons sont contaminées par la moisissure, il y a une purification à faire. Malgré sa popularité, Jean indique la venue imminente d'un autre prophète, encore plus grand que lui. Imaginez la scène comme si tu étais là avec Jean-Baptiste. Imaginez, tu es là au bord de la rivière Jourdain avec une centaine de personnes. Il y a la queue pour arriver juste au bord de l'eau et être baptisé par Jean. Tu attends ton tour. C'est presque ton tour d'entrer dans l'eau. Et Jean, il arrête et il regarde son cousin. Il dit, « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Jean, il annonce là l'accomplissement de la prophétie de Joël, que le Saint-Esprit sera déversé sur toute chair, sur tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Il y aura l'Esprit Saint et on n'aura plus besoin d'être enseigné parce que chacun va connaître la voix de Dieu, chacun aura à cœur les choses de Dieu. Les pères vont retourner vers leurs fils qui sont fâchés avec eux, les mamans vont retourner à leurs filles. Pour faire la paix, il y aura un grand changement parce que l'Esprit sera déversé. Donc Jésus va apporter cela. C'est beau. Jean dit, ce que je fais, c'est rien à côté de ce que lui, il va faire. Et dans ce contexte, il est évident que Jean parle de Jésus-Christ qui est venu s'associer à ce mouvement de foule. Cette manifestation très populaire à faire demi-tour, à se repentir et retrouver la consolation de Dieu dans le pardon de toutes leurs fautes. Avez-vous jamais posé la question, mais pourquoi Jésus était là? Pourquoi il était là? Il n'avait pas besoin d'être là. Jésus aurait pu rester à Jérusalem, dans le temple, parler avec les pharisiens et avec les scribes et expliquer la loi. Il n'avait pas besoin de suivre Jean pour être lavé. Pourquoi? Il n'avait pas fait de faute. Mais il est venu exprès parce qu'il voulait s'identifier avec son peuple qui cherche Dieu, qui cherche à connaître Dieu davantage. Donc il est important que Jésus a souligné il est important de souligner que Jésus-Christ a choisi ce moment précis pour démarrer son ministère. Il n'avait pas commis de faute, mais il est là pour identifier avec nous qui ont vraiment besoin de se laver de nos mauvaises idées, de nos mauvaises pensées et de nos actes manquants de l'amour. Cela nous amène à notre deuxième point. Jésus-Christ est affirmé par son Père lors de son baptême par Jean. Donc c'est ironique que Jésus a demandé le baptême de Jean. Et dans d'autres évangiles, Jean s'oppose à Jésus et en disant, c'est moi qui devrais être baptisé par toi et pas l'inverse. Et Jésus lui dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Jésus veut obéir à la volonté de son Père. Jésus veut obéir et accomplir toute la justice de Dieu. Il veut être consacré pour son ministère terrestre. Jésus sait qu'à ce moment précis, le Père va se révéler et il va annoncer ce que nous venons de découvrir. Mais dans cet acte, Jésus, le fait qu'il s'identifie avec son peuple, nous voyons son humilité et sa douceur. Il nous accompagne dans le chemin vers la rivière, ou pour recevoir l'eau versée sur la tête comme symbole de purification. Donc il nous accompagne, nous, pendant carême, car nous cherchons à mieux connaître le Seigneur et à confesser et vraiment le suivre de tout notre cœur. À ce moment, dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma approbation. Donc approbation est employée dans cette version et dans la seconde que nous avons lue, c'est toute mon affection. Donc, approbation et affection, c'est quand même très fort. Il y a un autre moment où Dieu se révèle d'une manière semblable. Savez-vous quand? Il dit, c'est mon fils, écoutez-le. C'est sur la montagne, la transfiguration, où Jean-Jacques et Pierre entendent la voix de Dieu. Donc c'est quand même un moment très fort où Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est reconnu par son propre Père. Et nous voyons ici même la Trinité manifestée dans un seul verset. Il y a Jésus, il y a Dieu, la voix de Dieu le Père, il y a le Saint-Esprit dans qui descend comme une colombe. Donc c'est le début dramatique du ministère de Jésus-Christ. Sommes-nous prêts pour la suite? Qu'attendez-vous? Ce moment dramatique presque, tout le monde est un peu sous le choc, on entend une voix, on voit une apparition sur Jésus, on voit que c'est fort. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va faire un discours? Est-ce qu'il va faire un miracle? Est-ce qu'il va faire un geste symbolique ou changer ses vêtements? Qu'est-ce qu'il va faire? L'esprit le pousse dans le désert pour être tenté. C'est inattendu. C'est pas ce que j'attendais. Jésus-Christ, et ça nous amène au troisième point, a été tenté par Satan dans le désert 40 jours. L'évangile de Marc ne nous donne pas beaucoup de détails dans ce chapitre de la vie de Jésus. Il dit, dans le désert, pendant 40 jours, tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Donc il n'y a pas grand-chose, pas beaucoup de détails. Mais nous savons par les autres récits que Jésus a été tenté au moins trois fois par Satan. Et les trois tentations sont les suivantes. Transformer les pierres en pain pour satisfaire ses besoins physiques. Donc il a jeûné quand même 40 jours et c'était vers la fin de cette période que Satan lui tendait la main pour, oui, pourquoi pas changer le pain, ces pierres en pain, tu peux le faire. Mais Jésus répond, non. Sauter du haut du temple, donc c'était le point culminant et Satan suggère qu'il accomplit les prophéties de les psalmes, les anges vont te protéger, tout ça. Jésus dit non. Et troisièmement, saisir la puissance et la gloire du monde. Satan avait la force et la possibilité de lui donner tout. Et il dit simplement, plie le genou et adore-moi et je te donne tout. À chaque tentation, Jésus a répondu non, en citant des textes bibliques qu'il avait gardés dans son cœur. Il nous donne l'exemple d'utiliser la parole de Dieu comme une protection et comme quelque chose qui nous guide dans la vraie vie. Jésus était aussi, le texte nous dit, menacé par des bêtes sauvages. Devrons-nous le comprendre littéralement? C'est possible qu'il y avait des bêtes sauvages dans le désert, mais ou plutôt comme une métaphore de l'attaque diabolique. Je le prends plutôt dans ce sens, que le diable et ses mignons, ceux qui le servaient, étaient là en train de tenter Jésus tout le temps et continuer. Donc dans 1 Pierre, nous avons cette parallèle. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc les bêtes sauvages, ça ressemble beaucoup à Satan. Jésus n'était pas seul pendant tout ce temps, les 40 jours, cette longue période. Jésus était toujours en communion avec son Père et l'Esprit Saint, lui, était aussi resté sur lui. Les anges de Dieu le servaient. En plus, c'était un réconfort pour Jésus. Il y a un autre passage où Jésus est attendu, comment dire, il est servi par les anges. Je crois que c'est en Gethsémané. Donc il y a quelques instants où nous voyons que Dieu permet que Jésus soit consolé. Et donc cette tentation était sévère. Et nous, ce que nous pouvons retenir de ce récit, c'est le fait que Jésus a été tenté par Satan et Jésus a gagné le combat. Jésus comprend nos situations, il nous connaît de A à Z et il peut aussi compatir à nos faiblesses et nous aider dans nos combats. Jésus n'a pas cédé à la tentation d'éviter la mort. C'était répétitif dans sa vie. Plusieurs personnes ont suggéré qu'il devienne le roi, qu'il prenne le pouvoir, qu'il évite la mort. Même dans le jardin de Gethsemane, il était tenté fortement à éviter la mort. Mais il n'a pas cédé à cette tentation. Il était obéissant, le serviteur de l'Éternel, le serviteur par excellence. En effet, comme Marc le dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. On peut conclure ce message juste en réfléchissant un petit peu plus. Jésus-Christ, comme Jean-Baptiste, nous invite à faire le demi-tour spirituel que nous avons à faire. Chacun de nous peut chercher dans son propre cœur, là où j'ai besoin de lui faire confiance davantage, ou là où j'ai un comportement qui n'est pas en lien, en conséquent avec ma confession. Donc Jésus nous invite à faire demi-tour. Et Jésus-Christ a reçu la pleine reconnaissance de son Père. Il a été baptisé, non pour purifier de ses péchés, parce qu'il n'avait pas, mais pour qu'il soit consacré et reconnu par son Père céleste. Donc, nous avons un Sauveur qui est pleinement Dieu, fils de l'homme et fils de Dieu. Et troisièmement, Jésus-Christ a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert où il a été éprouvé par Satan. Et Jésus en est sorti victorieux pour nous indiquer combien il est plus fort que le malin. Et lorsque nous sommes dans la difficulté ou lorsque nous sommes dans la nuit la plus sombre de nos vies, Jésus est là avec nous. Il sait les mauvaises pensées ou les pensées noires que nous avons. Il va nous soutenir, nous aider à s'en sortir victorieux parce que lui-même, il était victorieux du mal et même de la mort. Ça devrait nous reconforter et nous fortifier. Amen. Amen.